Une grande consultation publique sur l'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne est lancée. Donnez votre avis en tant que citoyen jusqu'au 18 juin. Pour contribuer à une vision d'avenir pour l'eau, l'association SOS Survivante vous informe. Découvrez aujourd'hui ce que l'on peut faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes et la vie des milieux aquatiques. Écoutons maintenant Monsieur Sapet de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et Monsieur Boineau, pêcheur professionnel. Monsieur Sapet, vous êtes chef du service planification à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour 2015, les eaux et les milieux aquatiques doivent avoir retrouvé un bon état écologique. Qu'est-ce que ça signifie ?
Une rivière en bon état écologique, c'est une rivière dans laquelle les peuplements vivants sont peu perturbés, à la fois sur le plan de la diversité des espèces, de la quantité de poissons et également de la qualité.
Est-ce qu'on peut dire que les conditions de réussite du bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques, tels qu'ils étaient prévus, ont été réunies ?
Alors à l'échelle du bassin, des leviers sont déjà en place à travers de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, et de son programme de mesures. Justement pour atteindre ce bon état écologique des eaux, puisque le SDAGE fixe les échéances à laquelle on doit atteindre le bon état des eaux.
Aujourd'hui, en 2015, on a quelle proportion qui sont en bon état écologique ?
On a à peu près un tiers des cours d'eau qui sont en bon état écologique.
Et alors pour les deux autres tiers, il y a une planification des actions prévues pour atteindre ce bon état écologique ?
Actuellement, on a effectivement un SDAGE, un programme de mesures qui sont mises en œuvre depuis 2010 et qui vont se poursuivre jusqu'à 2015. Et on est en train de préparer le second cycle pour la période 2016-2021. Et ce SDAGE fixera donc les objectifs à atteindre pour améliorer la situation, et le programme de mesures déterminera les grandes catégories de mesures qu'il faut mettre en place en les territorialisant pour répondre aux objectifs du SDAGE.
Selon les connaissances actuelles de nos écosystèmes, quelles sont les évolutions possibles de la qualité de l'eau sur le bassin de la Loire ?
Sur le long terme, on s'aperçoit que les politiques qui ont été menées depuis 50 ans pour l'amélioration des rejets ponctuels, alors pour agir sur les rejets d'azote, de phosphore, sur les matières organiques, ont montré leur efficacité.
Alors, est-ce qu'il y a des priorités qui ont été définies, des actions spécifiques à mener assez rapidement pour retrouver une bonne qualité de l'eau ?
Les principales difficultés rencontrées sur notre bassin pour l'atteinte du bon état des eaux, c'est d'une part l'hydromorphologie. Alors, c'est un terme un peu barbare. Ça recouvre à la fois l'aspect débit, c'est-à-dire que si on n'a pas d'eau dans les cours d'eau, c'est difficile d'être en bon état. C'est aussi les aspects liés à l'artificialisation du lit et des berges ou à la présence d'ouvrages.
Une rivière donc avec suffisamment d'eau et finalement assez peu d'aménagements.
Une rivière la plus naturelle possible, bon, qui va quand même supporter un certain nombre d'aménagements, mais qui garde quand même un caractère naturel chaque fois que c'est possible. Le deuxième axe, le deuxième gros obstacle à l'atteinte du bon état, c'est les pollutions diffuses.
C'est-à-dire ?
Alors, soit on se place du point de vue des nappes souterraines, et là on a beaucoup de nappes qui sont polluées soit par les nitrates, soit par les pesticides. Et puis c'est également tous les enjeux liés à l'eutrophisation, et je pense notamment avec la mise en œuvre de la nouvelle directive cadre stratégie marine à l'eutrophisation sur les milieux marins.
Donc ce sont surtout des pollutions d'origine agricole ?
Les pollutions diffuses sont essentiellement, oui, des pollutions d'origine agricole.
Donc en termes d'action, il y a des grands chantiers en cours sur ces questions-là ?
On peut citer quelques grands chantiers qui sont dans l'actualité. Le premier concerne le rétablissement de la continuité, c'est-à-dire la libre circulation à la fois des poissons, mais également des sédiments vers l'aval.
C'est-à-dire les sables, les cailloux.
Voilà. Et cette politique, par contre, doit obligatoirement s'insérer dans une politique plus globale sur la morphologie des cours d'eau. Et elle passe essentiellement par une mobilisation d'une collectivité qui accepte de porter des études préalables et des travaux d'amélioration. Donc la gouvernance locale est très importante. Et puis, les autres chantiers qui sont d'actualité, on a la mise en œuvre des programmes d'action dans les aires d'alimentation de captage d'eau potable, et puis également la mise en œuvre des cinquièmes programmes d'action en zone vulnérable pour les pollutions par les nitrates d'origine agricole.
Les grands acteurs de l'eau, qui peuvent aussi être de potentiels pollueurs, ont-ils déjà modifié leur comportement ?
Tous les usagers sont des pollueurs potentiels et tous ont, à des degrés divers, déjà fait des efforts. Pour les collectivités, on peut penser en premier lieu à l'amélioration, à la collecte du traitement des eaux usées, mais également des efforts faits pour la réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable. Côté industriel, on a bien sûr des actions sur l'amélioration des traitements, mais aussi quelque chose qui a été très important, qui est la réduction des pollutions à la source, et notamment pour des eaux de lavage. Il y a la mise en place de circuits fermés avec récupération et réutilisation des eaux plutôt que de circuits ouverts avec prélèvement puis rejet au milieu. Et les agriculteurs eux-mêmes ont fait des économies d'eau, notamment sur les territoires sur lesquels les tensions étaient les plus importantes. On arrive à mettre en évidence des économies d'eau sur la Champagne-Perrichonne, sur la Beauce, dans le bassin du Clain. Et puis également des actions de réduction des pollutions, je pense notamment à la Bretagne, qui était il y a quelques années dans une situation inquiétante et sur laquelle les politiques qui ont été menées ont permis de réduire la concentration en nitrate dans les cours d'eau.
Autre pollution d'origine agricole, c'est l'utilisation des pesticides. Et depuis 2008, il y a un plan éco-phyto qui a été mis en place à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Que pensez-vous de la mise en place de ce plan d'action ? A-t-on déjà pu constater des effets positifs sur la qualité des eaux ?
Les tendances actuellement, elles sont difficilement définissables. On a plusieurs difficultés. Il y a une très grande diversité des molécules. Il y a une très grande rapidité, diversité aussi du rythme de leur apparition, de leur disparition sur le marché. Et puis aussi de l'association de différentes molécules. Et donc on estime, nous, qu'il est aujourd'hui trop tôt pour évaluer les effets de ce plan.
On entend parfois dire que la meilleure station d'épuration, c'est une rivière qui fonctionne bien, c'est-à-dire une rivière peu artificialisée.
La pollution organique qui est rejetée dans les cours d'eau est dégradée en consommant de l'oxygène. Donc elle disparaît, mais la teneur en oxygène dans le cours d'eau va diminuer. Et un cours d'eau naturel favorise la réoxygénation de la rivière. Les aménagements de cours d'eau qui ralentissent le courant d'eau ne favorisent pas cette oxygénation.
Une station d'épuration épure les eaux, mais au final, on s'est rendu compte depuis assez longtemps qu'elle ne peut pas tout nettoyer. Et à la sortie des stations d'épuration, et du coup, dans les rivières, on retrouve des résidus de médicaments, de solvants, de métaux lourds et de pesticides. Comment on peut faire pour limiter ces pollutions et améliorer la qualité de l'eau ?
Concernant les villes, on peut citer les chartes des villes zéro pesticide. Il y a aussi un enjeu, dans ce cas de figure, à faire accepter les herbes folles dans la ville. Changer l'image qu'on peut avoir d'une ville propre. Et puis, ça peut être également en réduisant les apports industriels des circuits fermés plutôt qu'un rejet dans le réseau, éventuellement l'utilisation de produits moins polluants.
Alors les citoyens également, acteurs de l'eau, ont commencé à agir et à changer leur comportement pour un meilleur état des eaux. Qu'est-ce que vous leur conseillez de continuer à faire ?
Alors effectivement, on a pu noter que les consommations des particuliers avaient diminué, qui est une marque de changement de comportement. On note aussi des actions qui ne sont pas nécessairement directement liées à l'eau, mais qui ont des effets indirects. Et notamment, le développement, le succès des déchetteries a permis de réduire les rejets de produits dans les réseaux, voire directement dans le milieu. Donc, pense par exemple aux batteries, aux résidus de peinture ou d'huile. Mais ce qui montre aussi que l'évolution des comportements dépend de chacun, mais dépend aussi des services qui sont mis à la disposition de la population.
On parle souvent de conflits liés à l'eau, notamment entre la ville et la campagne, ou entre les agriculteurs et les simples citoyens. Quel type de conflit lié à l'eau connaît-on en France et plus précisément sur le bassin de la Loire ?
Ça peut être déjà très classiquement un conflit entre deux usages. Par exemple, les rejets diffus et ponctuels de nutriments qui sont cause d'eutrophisation marine, qui auront des impacts sur le tourisme et la baignade. C'est notamment ce qui a conduit à l'établissement de plans spécifiques en Bretagne pour lutter contre les algues vertes. Ça peut être aussi le partage d'une ressource par plusieurs catégories d'usagers.
Comme par exemple l'été.
Effectivement, alors ça peut être l'été sur un cours d'eau ou sur une nappe, une petite nappe, parce que effectivement c'est à cette période-là que les milieux sont le plus sensibles. Mais ça peut être plus globalement, par exemple, pour la nappe de Beauce, qui est une nappe qui a une grande capacité. Mais malgré tout, on était arrivé à un développement des usages qui pouvait être excessif. Et donc là, il y a lieu de voir entre chaque catégorie d'usagers qui doit faire des efforts.
Et comment on peut faire pour concilier les acteurs de l'eau et éviter ces conflits dont vous venez de parler ?
Pour arriver en fait à concilier les différents acteurs, je crois que la seule clé, c'est vraiment la concertation. Alors la concertation, elle peut se faire évidemment à l'échelle du bassin. C'est pour ça que dans le SDAGE, certaines thématiques très globales se traduisent par des orientations fortes. Et là, c'est vraiment le rôle du comité de bassin de trouver le bon point d'équilibre. Et puis, ça ne peut pas se passer qu'au niveau du bassin. C'est quelque chose qui doit en grande partie être concerté, décidé, mis en œuvre au niveau local. Et là, le lieu le plus pertinent pour cette concertation, c'est la commission locale de l'eau qui, au sein de sous-bassin, peut élaborer un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, hein, qui est en fait un peu le pendant du SDAGE, mais sur un territoire plus petit. Comme on est plus proche du terrain, on peut avoir des analyses plus fines, on peut avoir une action de mobilisation de tous les acteurs plus efficace. Donc il y a une articulation à trouver entre les orientations fortes au niveau du SDAGE, hein, et ce qui peut être fait au niveau des sages sur des sous-bassins.
Prendre soin de l'eau maintenant, en investissant aujourd'hui dans certains aménagements coûteux, c'est finalement éviter des coûts pour l'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
Alors, en partie, parce que l'affirmation laisse un peu entendre que finalement la protection de l'environnement coûte cher, et ce n'est pas nécessairement le cas. Et si on revient sur les exemples des ouvrages, en règle générale, la suppression d'un ouvrage en cours d'eau revient moins cher que son équipement par une passe à poisson, est plus efficace pour atteindre le bon état et permet d'économiser ultérieurement les frais d'entretien de l'ouvrage. Donc on voit que la protection maximale de l'environnement là n'est finalement pas la voie la plus chère. Et d'autre part, la non-action a un coût, c'est-à-dire que le traitement pour la production d'eau potable à partir d'une eau impropre à la consommation ou la mobilisation d'une autre ressource, voire des travaux d'interconnexion entre différentes collectivités pour pouvoir pallier une pollution de la ressource, coûte cher. On peut aussi citer, on parlait des algues vertes tout à l'heure, de la nécessité d'opérer des ramassages d'algues vertes. Donc, il y a des coûts de... La non-action a un coût, et pour autant, l'action en amont n'est pas nécessairement si chère que ça.
D'accord, donc mieux vaut prévenir que guérir.
On peut le dire comme ça, oui.
Thank you. Philippe Boineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scientifique et pêcheur professionnel. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la continuité écologique d'une rivière ?
La continuité écologique d'une rivière, c'est la possibilité pour à la fois les êtres vivants, mais aussi les sédiments transportés par les cours d'eau, de pouvoir se déplacer le long du cours d'eau.
Quelle est l'importance d'une rivière vivante ? Pourquoi les sédiments, par exemple, ont-ils besoin de se déplacer ? Quelle est l'importance pour la vie de la rivière ?
Alors pour les sédiments, c'est relativement important puisque quand un cours d'eau fait une crue, il transfère une énergie en fait qui a besoin de se dissiper. Et pour dissiper cette énergie, le cours d'eau creuse son lit ou il gratte ses berges. Quand un cours d'eau fait une crue, il a besoin de transporter des sédiments parfois en quantité assez importante. Et si on l'a empêché de transporter ses sédiments par exemple en faisant des endiguements trop serrés ou en faisant des barrages trop réguliers, eh bien on empêche ce transfert sédimentaire. Et du coup, quand il y a des crues importantes, le cours d'eau va s'attaquer à des ouvrages d'art comme les piles de pont, les berges transformées en digues, ou va creuser le fond de manière trop importante, ce qui va créer des désordres après sur les ouvrages d'art ou d'autres aménagements humains.
D'accord, donc là oui, c'est vraiment une question de sécurité. Et pour les espèces vivantes, telles que les poissons migrateurs, quelle est l'importance de ces mouvements ?
Quand vous avez une espèce de poisson migrateur qui... pour faire son cycle biologique, doit pouvoir impérativement circuler entre l'océan Atlantique ou la Méditerranée, et puis les zones amont des cours d'eau ou moyennes où il doit pouvoir monter, se reproduire ou grandir. Quand l'homme construit un mur dans ce cours d'eau, généralement, il empêche l'accès aux zones de reproduction ou de grossissement, l'espèce disparaît.
D'accord.
C'est ce qui s'est passé depuis... à peu près 150 ans sur les cours d'eau français.
Alors, on l'a bien compris, en tant que pêcheur, vous êtes sensible à la présence ou à l'absence de certains poissons migrateurs dans les rivières. Quel est votre constat sur la présence de ces migrateurs sur la Loire et ses affluents ?
Alors, sur la Loire et ses affluents, effectivement, on a constaté que les efforts collectifs réalisés dans le cadre du plan Loire ont permis quand même de reconquérir une partie des populations de certaines espèces. On peut citer le cas de l'arasement du barrage de Maison Rouge sur la Vienne, un des grands affluents en rive gauche de la Loire, où le saumon avait disparu, où la lamproie était réduite à quelques centaines de reproducteurs par an, et pour la Loire, c'était uniquement quelques dizaines de poissons tous les ans. L'arasement du barrage de Maison Rouge a l'effet escompté, c'est-à-dire qu'on a sauvé pour l'instant la Loire et la lamproie, sachant qu'il reste d'autres soucis qui s'ajoutent avec notamment le réchauffement climatique ou l'arrivée d'espèces invasives.
Ça n'est jamais irrémédiable si on prend les problèmes à temps, avant l'extinction, je suppose.
Tout à fait, oui. Quand une espèce est éteinte, comme le saumon, on le voit, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de reconstituer les populations. Donc là, sur la Vienne, c'était une décision politique assez forte qui a été prise, assez difficile à faire admettre par beaucoup d'acteurs locaux, notamment les élus du conseil municipal local aux parlementaires. Ils ont eu beaucoup de mal, je dirais, un peu à avaler cette pilule de l'effacement du barrage Maison Rouge. Et quelque part, finalement, l'écologie a donné raison à ces décisions politiques difficiles, puisqu'on a connu les records dont je viens de vous faire état.
Est-ce qu'il y a d'autres avantages à restaurer les rivières ?
Il y a une bonne raison, c'est qu'une rivière en bonne santé écologique va produire une eau de meilleure qualité que si elle est dégradée. Et donc, en gros, avec une rivière en état écologique correct, on va avoir une garantie qu'on va avoir une eau qui va être beaucoup plus souvent correcte sur le plan de la qualité physico-chimique pour la consommation humaine, et qu'en plus on aura beaucoup moins de surcoûts liés au traitement ou à la dépollution.
Quelles sont, selon vous, les actions à mettre en œuvre en priorité pour une meilleure qualité des eaux, justement une réelle continuité écologique des rivières sur le bassin de la Loire ? Quels sont les points noirs encore à débloquer ?
Les points noirs, on a identifié, je crois, une quinzaine d'ouvrages qui constituent encore des points noirs, sur tout le bassin de la Loire, qui sont pas réglés. Et pour des espèces à enjeu patrimonial, on peut citer l'anguille, on a encore des ouvrages qui sont des points noirs, comme par exemple l'écluse de Saint-Félix à Nantes. Ça a des conséquences sur une économie qui peuvent être lourdes, puisque sous prétexte réel de baisse des effectifs de poissons migrateurs, du coup, la seule mesure que l'administration... se permet de mettre en œuvre de manière urgente, c'est éventuellement de réduire ou de fermer la pêche. Et on voit bien que là, effectivement, le pêcheur sert de variable d'ajustement à des problèmes de société dont il n'est pas responsable. Les problèmes que rencontrent la plupart des poissons migrateurs sont des problèmes sociétaux. Donc, le fait que le petit pêcheur, il dirait, paye pour l'ensemble de la société n'est pas du tout un traitement démocratique ou équitable.
sert à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, croissent l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, 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 j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Philippe Boisneau, vos métiers sont un petit peu étranges, ce serait sympa de nous les expliquer. Vous êtes à la fois scientifique et pêcheur professionnel sur la Loire. Pouvez-vous nous en dire plus?
Bah effectivement, j'ai une formation de scientifique. Hein. Mon cursus d'étudiant n'avait pas appelé à devenir pêcheur professionnel. Effectivement, je suis docteur en sciences, hein, j'ai un doctorat en écologie aquatique. Pendant mes travaux de recherche, j'avais beaucoup collaboré avec les pêcheurs professionnels, puisque eux, c'est qui, la plupart du temps, qui détiennent les meilleures connaissances et les meilleures capacités pour accéder à des espèces souvent pas faciles à appréhender dans le milieu naturel.
D'accord.
Donc finalement, je me suis reconverti dans la pêche, c'est une reconversion.
La Loire est donc un endroit où il y a des pêcheurs professionnels? On peut être pêcheur professionnel sur une rivière?
Tout à fait, on peut être pêcheur professionnel sur une rivière, et d'ailleurs... Il y a des pêcheurs professionnels dans le sud-ouest de la France. Hein. Il y a des pêcheurs professionnels encore assez nombreux sur l'Adour, les côtiers landais ou même la Garonne, la Dordogne et la Gironde. Donc mes collègues sont bien présents sur tous ces territoires et encore bien actifs. Et effectivement, leur survie actuellement est grandement mise en jeu par justement par les problèmes que rencontrent les poissons grands migrateurs. Certaines organisations écologistes disent même que les pêcheurs professionnels, pour l'instant, leur apparaissent encore plus menacés que les poissons qu'ils pêchent.
Mmh.
C'est vous dire un peu les tensions actuelles qui règnent dans notre domaine.
D'accord. Et c'est une pêche qui se fait à la ligne, avec des filets. Comment ça se passe?
Le code de l'environnement c'est complet là-dessus, hein, puisque c'est une activité complète, totalement encadrée. Il faut bien sûr être locataire droit de pêche de l'État, donc détenir une licence ou un bail attribué par l'État. On a, comme tous les pêcheurs de loisirs aux lignes en France, on a à respecter les dates de pêche. Il y a un décret qui prévoit une liste d'une quinzaine de familles d'outils ou filets utilisables par le pêcheur professionnel.
D'accord.
Donc l'activité est vraiment très très strictement cadrée, et donc pour sécuriser un peu l'activité par rapport aux potentialités du milieu.
D'accord. Donc vous avez des contraintes pêcheurs, vous avez des contraintes énormes quant à vos pratiques, mais par contre, on voit beaucoup d'ouvrages qui posent des problèmes aux populations, et là, les choses n'avancent pas, on comprend votre agacement.
Tout à fait. On a souvent l'impression que face à des problèmes complexes à résoudre, la réduction de certaines pollutions, comme les PCB ou leur traitement, ou après, quand il s'agit effectivement d'aménager pour la continuité écologique des ouvrages qui souvent sont dans la régularité depuis longtemps et qu'on n'arrive pas à trouver de consensus ou de solution avec les propriétaires. Bon, effectivement, la pêche reste la seule variable d'ajustement souvent utilisée par l'administration, puisque là, c'est pas compliqué, un arrêt préfectoral, c'est assez brutal, mais la pêche est fermée, quoi, sans discussion possible souvent. Donc, effectivement, le pêcheur, il se sent souvent un peu frustré parce qu'il a vraiment l'impression de payer pour l'ensemble de la société pour les fautes commises, quoi.
Et du poisson dans les rivières, ce qui est...
Et du poisson, oui, parce que c'est un tout, hein. Qui dit qualité écologique dit donc continuité écologique, qui dit liberté pour les sédiments, mais aussi les espèces vivantes de circuler, donc... Un fleuve de bonne qualité écologique va aussi produire des poissons de bonne qualité sanitaire et alimentaire. Donc, va permettre aux communautés locales de pêcheurs de vivre de leur métier et aussi de jouer le rôle de veilleur de l'environnement. Tenir une rivière en bonne qualité qui permet à des pêcheurs professionnels de vivre dessus, ou un estuaire suffisamment en bonne qualité, ben, du coup, tout le monde a intérêt à conserver ce milieu aquatique dans la meilleure qualité possible et à éviter qu'il se dégrade. Voilà.
Donc on vous souhaite beaucoup de vie dans cette Loire et autour. Merci Philippe Boineau, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Parce que votre avis compte, participez à une consultation publique sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques en répondant au questionnaire à votre disposition sur le site internet prenonssoindelleau.fr. Cette émission vous a été proposée par SOS Loire Vivante ERN France, avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.